Canu, et on vient d'écouter dans l'ordre la S, un groupe de punk hardcore de Lyon. Le morceau c'était Je comprends les gens. Ensuite c'était un artiste de musique électronique de Lyon aussi qui s'appelle Dr Curie. Son morceau c'était Sparkfield, et on a fini avec les punk chinoises de Xiao Wang avec le morceau Sonic Baby.
Vous écoutez Radio Canu sur 102.2.
Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser, parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Dans la...
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part
de la justice et du travail, oui mais, ça prend le temps, le manche, les mauvais jours finiront, et garde à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront.
Entre dépenses et recettes, sandwich hamburger à la sauvette. Les petits métiers qui de la vie améliorent, les jardins et qui encore, des herbes bonnes aux pierres après la mort. Les petits métiers qui se servent de leurs mains, qui n'ont pas le temps de bien surfer dans l'univers de demain. Pour une terre d'Asie. s'assoit derrière leur caisse, qui attendent sans promesse un mot gentil teinté d'allégresse. Les petits métiers.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter là. Faut...
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir, vous êtes bien sur le Canu Info du lundi et sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Alors on a eu un petit bug au départ de l'émission, mais maintenant c'est tout bon et donc c'est parti.
Et on commence avec les titres. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par le local pour parler du mouvement étudiant contre la précarité qui a débuté depuis maintenant plus d'une semaine. On accueillera en première partie d'émission donc une camarade, enfin un camarade lyonnais du syndicat solidaire étudiant. Ensuite, on vous passera un petit reportage sur le rassemblement qui a eu lieu au Crous la semaine dernière. Et ensuite, au national, on passera sur le mouvement en général contre la précarité et ce qui s'est passé dans d'autres villes. Ensuite, on reviendra sur l'acte 53 des Gilets jaunes, donc les 1 an des Gilets jaunes qui ont eu lieu ce samedi. Et on finira au national avec le flop, entre guillemets, de la manifestation des identitaires à Paris contre l'islamisme. Et on terminera à l'international avec le putsch en Bolivie. Puis suivra la situation en Grèce et à Athènes, dans le quartier d'Exarchia, qui est victime de la répression d'État. Et pour finir, encore un cas de répression d'État à Hong Kong avec le siège de la fac polytechnique.
Alors on commence donc cette émission avec une interview donc avec Mathias de Solidaire Étudiant, bienvenue.
Bonsoir.
Merci d'être là. Alors on va pas revenir sur les faits que vous avez forcément suivi l'immolation d'un camarade de Solidaire Étudiant donc vendredi 8 novembre et qu'il l'a justifié ouvertement et publiquement par la précarité dans laquelle il était maintenu en tant qu'étudiant. Et depuis lors, eh bien effectivement, il y a eu une réaction fort heureusement des étudiants et des camarades de cet étudiant, et donc c'est pourquoi aujourd'hui on va parler de ça. Donc
voilà, déjà, est-ce que dans un premier temps tu pourrais revenir sur ce qui s'est passé depuis justement le vendredi 8 novembre et quelles actions étaient menées à Lyon
Ouais, pas de problème. Donc déjà, une des premières actions était de chercher notre camarade, hein, puisqu'en fait, on a vu son post sur Facebook avant l'acte, donc ça a été un gros moment de stress. Et ensuite, un week-end de gestion de crise, donc en fait, de discussion avec les médias, etc. Mais aussi, notamment, avec le directeur de cabinet de Madame Frédérique Vidal, puisque Frédérique Vidal est partie en Antarctique samedi, ce qui nous permet d'en avoir un accès vraiment privilégié, on est très contents. Donc on a rédigé des communiqués de presse, etc. Et on a organisé une assemblée générale à Lyon, mais à plusieurs endroits en France. Donc le mardi 12, avec d'abord un rassemblement devant le Crous, déjà parce qu'on pensait que c'était important que les étudiants se sentent pas seuls, parce qu'effectivement il y a eu beaucoup d'échos, beaucoup de témoignages d'étudiants dans des situations extrêmement précaires. Donc en fait, montrer notre soutien à notre camarade et puis à tous ceux qui sont dans ces situations-là. Devant le Crous, donc à 10h, donc on devait être 1000-1500, disons, qui s'est transformé en fait en espèce de manif sauvage jusqu'à la faculté des quais sur Lyon 2. Donc une AG a pris place, donc là on est à peu près 800, 1000, quelque chose comme ça. Et en fait c'est toute la question de la gestion de foule et qu'est-ce qu'on fait quand on est nombreux, on a envie de faire beaucoup de choses. Donc il y a eu déjà l'envahissement du bureau des équipes de présidence à Lyon 2. Bon bah malheureusement la présidence n'était pas là, elle était à Bron manquée. Il y a eu également la décision d'un blocage immédiat et semi-immédiat, c'est-à-dire maintenant, si ça marche pas, on recommence demain. Donc voilà, aussi sur cette question-là, parce que en fait, ça semblait impossible de ne pas réagir. Et ensuite, une équipe est partie d'une centaine de personnes aller faire un Crous gratuit, donc c'est-à-dire d'offrir le repas aux étudiants et de faire en sorte de ne pas payer. Donc l'action s'est bien passée. Effectivement, on a été dégagé par les flics, mais sans violence autre que leur présence, qui est, je pense, une insulte au fait qu'il ne devrait pas y avoir de flics dans nos lieux d'enseignement et nos lieux de restauration. Et ça a continué avec un débrayage de Lyon 3, sur le campus des quais, et un débrayage de l'IEP. Donc on a été applaudis par des enfantiers de droit, on ne s'y attendait pas du tout, mais avec des gens qui n'étaient pas forcément au courant et qui étaient quand même très intéressés par ce qui se passait, qui se sentaient touchés. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément ce truc de « ok, on va se mettre en mouvement », etc., etc. Donc ça commence à bouger dans l'IEP en tout cas, et à Lyon 3 qui a été bloqué vendredi la dernière. Donc le mercredi qui a suivi, tentative de blocage, etc., ça a été très beaucoup de volonté d'activité, ça bouillonnait, c'était très difficile à suivre. Et jeudi, on a eu une nouvelle AG mieux préparée. À 12h, on était à peu près 800, pareil, dans un amphi bondé avec des profs, des journalistes, etc. On a dû essayer de trier tout ça, mais c'était un peu compliqué. Et les votes les plus importants, c'est on ne peut pas laisser passer ça, il faut continuer la mobilisation. Donc dès qu'on continue avec des crous gratuits, etc., le vendredi, parce qu'en fait c'est des bons moyens de faire passer le message, on touche des étudiants qui vont manger aux rues, qu'on peut pas toucher autrement parce qu'on sait pas forcément où ils étudient, mais aussi la question du blocus qui s'est posée, donc quand est-ce que ça sera fait, etc., des questions d'occupation, on pourra revenir là-dessus, il y a une occupation maintenant, en ce moment même, dans l'amphithéâtre à Lyon 2, dans le bâtiment H, donc sur le campus de Bron, qui n'est pas nécessairement une réussite là tout de suite, mais on verra ce que ça donne. Et effectivement, l'idée qu'en fait on doit tenir au moins jusqu'au 5 décembre, parce que c'est ça en fait le point d'horizon, je pense que ça a été évoqué dès le début de l'AG, mais aussi on va poser une date nationale qui est donc le 26 novembre pour faire la suite.
Du coup, tu parlais de la difficulté à atteindre certains étudiants, donc en fait, si... clairement, le camarade, il a revendiqué, enfin, il a dénoncé la précarité de sa situation dans son texte. Et maintenant, les médias parlent de plus en plus de cette précarité étudiante. Donc, tu nous dis que dans le Crous, on peut atteindre c'est justement des étudiants qu'on n'a pas l'habitude d'atteindre. En fait, cette précarité étudiante, qu'est-ce que c'est concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est être un étudiant précaire et qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien?
Déjà, je pense qu'il faut commencer par dire que donc il y a un observatoire de la vie étudiante qui s'appelle l'OVE qui fait des rapports, et il y a l'INSEE également qui compte, mais en fait il compte très mal parce que déjà il se base souvent sur le revenu du foyer, alors que l'étudiant, en fait, on ne sait pas quels sont les transferts intrafamiliaux, on ne sait pas ce qu'il a réellement pour vivre parce que les comptages sont mal branlés. Mais bon, si on part de ces comptages là un peu mal foutus, on sait déjà qu'il y a 50% des jeunes qui travaillent, des jeunes étudiants, hein, je veux dire, Alors qu'en fait, étudier, c'est déjà un travail à temps plein. Donc en fait, on a 50% des étudiants qui sont déjà en difficulté du fait même que tout leur temps n'est pas consacré aux études et à prendre soin d'eux et à tout un tas de trucs. Je ne suis pas pour le fait qu'on doit étudier H24, c'est pas... Voilà. Mais, et on a 50% de ces étudiants-là qui travaillent plus de 6 mois par an. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement cantonné aux vacances, ça veut dire qu'on a des étudiants qui vont jongler avec différents emplois du temps, qui ne vont pas nécessairement s'accorder et avec lequel, bah, on le sait très bien, le monde du travail est impitoyable. Donc ne va pas essayer de s'arranger avec la fac, et l'administration, on la connaît, elle est elle aussi très très précise sur les réglementations. On voit aussi que les femmes travaillent plus que les hommes, donc on a là aussi des exemples de précarité un peu différenciés, et évidemment, les filles et fils d'ouvriers et d'employés travaillent beaucoup plus que les autres catégories socio-professionnelles. Donc en fait, pour 13% d'entre eux, le travail est concurrent aux études de manière directe, c'est-à-dire que ça les empêche de réussir, puisque c'est plus d'un mi-temps et c'est plus de 6 mois. Donc en fait, on est sur... Un truc qui est assez exceptionnel et en fait qu'est-ce qu'on doit pointer du doigt, bah en fait la bourse maximum qui peut être distribuée à un étudiant sur 10 mois, donc pas sur toute l'année, c'est 555 € par mois. Si on regarde la dépense moyenne d'un loyer pour un étudiant, c'est 430 € par mois. Donc en fait, si on est boursier maximum, c'est déjà qu'on est dans une situation de précarité qui est énorme. Mais en plus, si on doit consacrer en moyenne 430 € par mois, bah, qu'est-ce qui reste? Et c'est ce que disait notre camarade dans son texte, est-ce qu'on vit avec 450 € par mois? La réponse est non, c'est en dessous du seuil de pauvreté, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on remarque aussi chez les étudiants, c'est que pour 34% d'entre eux, en fait, le travail est une source de stress et d'angoisse forte. Donc en fait, c'est de la précarité mentale, physique qui va avec. Pour des enquêtes de la MGEN, 43% des étudiants renoncent aux soins. Et parmi ces 43%, en fait, 51% pour des raisons exclusivement financières. Donc, en fait, on est sur des étudiants qui sont dans des situations de précarité, de stress et donc du coup de mauvaise santé. Et qui en plus vont pas avoir les moyens de prendre soin d'eux. Je pense le chiffre qui est faramineux, c'est qu'on a 8% des étudiants qui ont déjà pensé au suicide dans les 10 derniers mois par rapport à 3% dans la population je crois que c'est des 15-30 ans. Donc, bon, alors, tous les étudiants n'ont pas cet âge-là, mais ça nous donne un bon exemple. Donc, en fait, on est sur... en fait, la précarité tue, c'est vraiment un slogan qui n'en est pas un, c'est la réalité, quoi.
Oui, ça force à l'isolement. Et justement, l'isolement, ça empêche aussi de se mobiliser, d'où l'intérêt d'aller dans les CROUS. Et justement, par rapport au fait d'empêcher de mobiliser, nous, on a vu beaucoup de réactions de politiques, notamment des membres du gouvernement, qui essaient de dépolitiser l'affaire. Est-ce que tu pourrais revenir un peu, justement, au niveau national, mais aussi local, avec la présidence de Lyon 2, sur les réactions et les stratégies pour étouffer la colère des étudiants?
Déjà, la première chose, ça a été la non-réaction, parce qu'il y a eu un calme plat quand même pendant 3 jours avant d'avoir une quelconque réaction. Donc on a le mardi, la première réaction quasiment, c'était des tweets du compte du CROUS, qui dit en gros, on se sent désolé pour les personnels du CROUS, parce qu'ils ont vu un étudiant s'immoler face à leurs locaux. Ok, super, merci les gars. Donc on a eu pas de réaction de Madame Vidal avant mardi 12, où en fait effectivement François Hollande faisait une conférence à Lille, et donc il s'est fait huer, ses bouquins, enfin la conférence s'est pas tenue et ses bouquins ont été déchirés, donc en fait on n'a pas arrêté de nous parler des bouquins, voilà. Donc bon, c'est le coup des vitrines, hein, comme d'habitude. Donc on est vraiment sur une non-volonté de reconnaître la violence d'État, mais par contre effectivement pointer la violence des manifestations qui sont très légitime pourtant. Et alors surtout, on a tout un vocabulaire qui s'est développé sur c'est un acte isolé, on va parler de fragilité psychologique, on va essayer de déterrer des informations potentielles sur notre camarade, alors que c'est pas le cas, on est sur quelque chose de collectif, les chiffres le montrent bien. Ensuite, comme nous on l'a eu au téléphone, le directeur de cabinet de Vidal, il nous a proposé une rencontre, et nous on a dit écoutez, on vous rencontre c'est-à-dire qu'on vous rencontre pour avoir des solutions. Et il nous a répondu, je me souviens de sa formule, c'était formidable. Il a dit, oui, vous savez, il y a un temps pour l'émotion et un temps pour l'action. Et donc, nous, on lui a dit, écoutez, nous, on va s'agiter et puis on verra quand on vous rencontre. Donc, du coup, ils ont dit ensuite dans la presse qu'on avait refusé de le rencontrer, ce qui n'est pas le cas. Donc, enfin, tout un merdier pas possible pour nous faire passer pour les grands méchants de l'histoire. Le fait aussi que, comme Solidaires étudiants n'est pas une organisation représentative, on n'est pas reçu au ministère. Donc, c'est l'UNEF et la FAGE qui représentent la voix étudiante. Autant vous dire qu'on n'est pas, on est un peu dans la merde, très clairement. Même si, bon, discuter avec le gouvernement, ça va rien donner, puisqu'effectivement, ils sont là pour nous donner des miettes. On a rencontré Attal, qui en gros nous dit oui, on est désolé pour vous, etc. Mais en fait, on va rien changer. Il nie le fait que la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, c'est un vrai... c'est un vrai drame, en fait, pour la plupart de ces étudiants-là, etc. Et alors, ce qu'on arrive à concevoir, là, en ce moment, c'est qu'ils vont essayer de faire des effets d'annonce en disant que, voilà, ils vont peut-être filer un coup de main aux étudiants en couple, parce que quand on est étudiant et en couple, si le montant des bourses cumulées, c'est 90% du SMIC, on perd les bourses. Ouais. Ce qui est très malin. Et peut-être aussi pour les étudiants qui travaillent au noir ou qui ont des enfants, voilà, ils vont peut-être essayer de faire des annonces là-dessus, mais c'est clairement pas suffisant, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite, ils vont essayer de nous la mettre à l'envers avec le revenu universel d'activité. Donc c'est un truc qui est en train d'être discuté, qui va sortir en janvier. Et pour représenter les jeunes, le collège jeune, c'est la FAGE et l'UNEF. Donc encore une fois, on est un peu dans la merde. Donc ils sont sur une temporisation. Ils espèrent que ça grossisse pas, etc. Mais nous, on va essayer de leur prouver le contraire. Et sur Lyon 2, bah, en fait, la présidence s'est bien fait remettre à sa place par Frédéric Vidal quand elle est passée. Il fallait surtout pas que les épreuves viennent au rassemblement. Elle a pas dit qu'elle banalisait les cours, mais par contre, les absences n'étaient pas décomptées. Mais elle ne l'a pas annoncé, ce qui en fait est débile, ouais, parce que du coup, les étudiants sont pas au courant. Et surtout, elle veut que les étudiants soient en cours pour soi-disant être entourés, etc. Alors qu'en fait, les profs ne sont pas habilités, pas formés pour recevoir d'éventuels... problème d'étudiants sur ces questions-là.
Moi, j'ai eu des retours d'enseignants en psychologie qui voulaient, de manière complètement indécente, psychanalyser la situation. Donc oui, clairement, on est là-dessus. Mais justement, moi, on voit là-dedans, il y a aussi une volonté de dépolitiser l'acte du camarade, en fait.
Oui, il y a tout ce truc-là de... je me souviens qu'Attal a répondu à Daniel Obono lors d'une question au gouvernement en disant il faut absolument pas rendre ça politique, vous allez être responsable de plein de suicides, blablabla, il faut pas qu'il y en ait d'autres. La question, c'est pourquoi plus qu'il y a de suicide, et on est très clair, il y a un journaliste qui m'a demandé ça l'autre jour, est-ce que votre nouvelle méthode d'action c'est l'immolation? Ok, super, merci. Ouais. Donc c'était 2 jours après, j'étais vraiment ravie. Mais en gros, non, évidemment, on n'appelle pas au suicide des gens, enfin je veux dire, faites-vous aider, SOS Suicide ça existe, il y a plein d'organismes, certes insuffisants, mais faites-vous aider. Par contre, ça montre qu'il faut une réaction institutionnelle, forte, avec des moyens pour qu'en fait, pour que tous les étudiants puissent vivre et étudier dignement. Et je trouve que c'est pas grand-chose quand même à demander.
Et du coup, comment on obtient la réaction? Comment on construit un rapport de force avec le pouvoir actuellement, les étudiants, comment ils le font? Avec quels moyens d'action? C'est un peu...
D'autant qu'on voit que depuis un certain nombre d'années, à chaque fois qu'il y a une tentative dans un certain nombre d'universités, les présidents d'universités n'hésitent plus à envoyer les forces de l'ordre quasiment systématiquement à la moindre tentative de blocage. Alors qu'est-ce que ça donne?
Déjà, on a eu les flics sur le campus 3 fois en une semaine. Enfin, je veux dire, c'est assez parlant, hein, du coup. Et quand c'est pas les flics, c'est la sécu. Et la sécu, à la limite, les flics, c'est inacceptable, mais au moins, on sait où est l'ennemi. La sécu, c'est des gens qui sont mal payés pour des jobs de merde, et ils ont pas envie d'être là tout autant que nous. Donc, c'est encore plus difficile parce qu'on n'a pas envie de leur mettre sur la gueule. C'est pas de leur faute. Donc, du coup, ça, c'est vraiment compliqué. Il y a aussi tout le truc de les étudiants ont conscience que tout seul, ils arriveront pas à faire bouger le gouvernement. Donc, ça, c'est déjà pas mal parce qu'avant, on avait quand même des espèces de vibe mai 68 en mode c'est nous qui allons tout révolutionner, ouais, alors que c'est pas tout à fait le cas. Donc le 5 décembre, c'est vraiment en ligne de mire. Il y a vraiment ce truc là de il va falloir se joindre aux travailleurs, il va falloir trouver comment pour que ça soit vivable et pour les étudiants, parce qu'en fait il faut quand même que soit la fac s'arrête, soit il se passe quelque chose, mais qu'on puisse pas perdre nos années à cause de ça, et en même temps pour les travailleurs sur comment on peut faire le lien, etc. Aujourd'hui il y a quand même vachement la question de l'occupation qui revient. Moi je trouve que c'est un peu des modes d'action qu'on a utilisé, enfin qu'on utilise de plus en plus depuis la ZAD, etc. Mais je comprends pas en fait à quoi, enfin il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de on occupe, ok, mais pourquoi? Et en fait, qu'est-ce que ça fait d'occuper un amphi à Bron alors qu'en fait personne n'y passe? Qu'est-ce que ça fait de dormir là-bas alors qu'en fait ça crée pas forcément plus d'activité, etc. Il y a plein de débats dans le milieu étudiant à ce niveau-là. Les crous gratuits, ça fonctionne, ok, mais ça fonctionnera pas toute la vie. Ça fera pas appliquer le gouvernement. On va creuser la dette du crous à la limite, mais c'est le grand maximum, quoi.
Est-ce que ça permet pas au moins de s'organiser à minima, de faire des assemblées générales, de se retrouver, d'avoir un temps en commun et une situation où on peut discuter de quoi faire?
Bah oui, alors très clairement, mais donc c'est pour ça que par exemple Solidaire appelle à des AG, il y en a une demain à midi à l'Amphicé. Enfin, du coup, effectivement, il faut se retrouver. Après, la question, c'est quand on sait que de toute façon, on va se faire dégager par les flics si on occupe de nuit, est-ce que il faut mettre notre force là-dedans ou est-ce qu'il faut trouver autre chose? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt sortir de l'université pour se joindre aux travailleurs? Donc, il y a différentes grèves qui vont se mettre en place dans les semaines qui viennent. Enfin, ça pose tout un tas de questions aussi sur et puis notamment le fait que les occupations qui se sont passées les dernières années sur Lyon 2 n'ont pas été des plus alors outre celles pour les camarades étudiants étrangers, n'ont pas été des plus réussies au sens où c'était mal organisé. Donc, il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions nous à un moment.
Et il y a aussi un truc qui choque, c'est quand même on est face à une situation qui touche la plupart des étudiants et pourtant bon numériquement hein, mais bon ça c'est un classique hein, mais quand même c'est assez choquant de voir le peu de nombre d'étudiants finalement qui jouent à la mobilisation. Il y a une forme d'isolement peut-être un peu des étudiants justement et chacun fait essaie de se débrouiller, de s'en sortir de son côté. Et comment on brise cette mécanique quoi?
Bah alors, ça, je trouve que c'est une très bonne question, mais il y a aussi le truc de... ouais, les étudiants essayent de s'en sortir. L'idée, par exemple, des cantines sauvages, bah, en fait, ça permet aux étudiants de bouffer gratuitement, donc c'est pas mal, peut-être que ça peut nous aider à nous retrouver. Après, il y a tout le truc de la fac, c'est plus du tout un lieu de vie. Les étudiants, ils passent pour prendre des cours comme des consommateurs, et après, ils se cassent parce qu'ils doivent taffer, trucs, machin. Donc, en fait, c'est aussi ça toute la question. Est-ce qu'il faut pas aussi qu'on se déplace sur les lieux de travail des étudiants? Donc, quand ils sont femmes de ménage, bon, quand ils font du babysitting, c'est plus compliqué, mais il y a déjà des plateformes qui essayent de les mettre en lien. Voilà, bon, on connaît bien le clap pour Uber Eats, Deliveroo, etc. Il faut qu'on trouve des solutions, pour le moment on les a pas et il va falloir qu'on réfléchisse vite.
En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est sûr et ça marche à chaque fois quand il y a un mouvement interprofessionnel et qu'il y a les facs qui sont également mobilisés au même moment, ça donne quand même une certaine ampleur au mouvement, donc bah, on a hâte d'arriver au 5 décembre et de voir ce mouvement étudiant qui prenne un peu d'ampleur, tout comme les grèves reconductibles dans différents secteurs. On va s'arrêter là pour cette interview. Merci beaucoup.
Merci
d'être venu.
Merci à vous.
Voilà, et puis on continuera évidemment à dire ce qui se passe à la fac de Lyon et dans les autres universités tout au long des semaines qui suivent. On va enchaîner avec un reportage donc, qui a été fait justement mardi de la semaine dernière devant le CROUS, devant le CROUS au moment du rassemblement, avec un certain nombre d'interviews également dans ce reportage.
J'arrive même pas à voir jusqu'où vous êtes, donc ça veut dire que vous êtes beaucoup, ça nous touche beaucoup. On a décidé que, donc j'imagine que vous le savez, mais on vous remercie de ne pas donner son prénom et de ne pas donner son nom en interview, en quoi que ce soit, si jamais vous faites interviewer par les journalistes, etc., pour protéger sa famille. Donc je vais lire sa lettre, le message qu'il a posté quelques instants avant de s'immoler par le feu. Ok. Bonjour. Aujourd'hui, je vais commettre l'irréparable. Si je vise donc le bâtiment du CROUS à Lyon, ce n'est pas par hasard. Je vise un lieu politique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche, et par extension, le gouvernement. Cette année, faisant une troisième L2, je n'avais pas de bourse. Et même quand j'en avais, 450 € par mois, est-ce que c'est suffisant pour vivre? J'ai eu la chance d'avoir des personnes formidables autour de moi. Ma famille et mon syndicat. Mais doit-on continuer à survivre comme nous le faisons aujourd'hui? Et après ces études, combien de temps devons-nous travailler, cotiser pour une retraite décente? Pouvons-nous cotiser avec un chômage de masse? Je reprends donc une revendication de ma fédération de syndicats aujourd'hui, avec le salaire étudiant et d'une manière plus générale, le salaire à vie, qu'on ne perde pas notre vie à la gagner. Passons à 32 heures de travail par semaine, pour ne plus avoir d'incertitude vis-à-vis du chômage qui conduit des centaines de personnes comme moi chaque année à ma situation et qui meurt dans le silence le plus complet. Luttons contre la montée du fascisme qui ne fait que nous diviser et du libéralisme qui crée des inégalités. J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de m'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de tous et toutes. J'accuse aussi Le Pen et les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires. Mon dernier souhait, c'est aussi que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu. Désolée pour l'épreuve que c'est. Au revoir.
suis membre de Solidaire étudiant étudiante. Et par conséquent, je connaissais très bien notre camarade qui s'est immolé par le feu ici. Un geste désespéré qui en dit beaucoup sur la situation étudiante à l'heure actuelle. Nous pensons à notre camarade, à l'heure actuelle, encore entre la vie et la mort. Son geste, s'il reflétait la situation terrible qu'il vivait, était un geste éminemment politique, et cela il a lui-même dit. Parce qu'aujourd'hui en France, en 2019, la précarité tue encore et tous les jours. La précarité tue parce qu'elle isole, enchaîne, rend impossible une vie décente. Les choix politiques actuels sont les raisons de notre misère. Les institutions, les gouvernements sont les responsables. Nous exigeons que nos revendications soient entendues, que des travaux soient entrepris sur la question de la précarité étudiante et que des actes clairs arrivent en conséquence. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour manifester notre solidarité avec notre camarade, mais aussi pour se retrouver entre nous, étudiants, étudiantes, membres du personnel, camarades de tous lieux, et créer notre colère pour dire qu'on ne lâchera pas l'affaire. Pour reprendre les mots de notre camarade, vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécurité sociale. Nous resterons présents, présentes et déterminés à ses côtés, aux côtés de tous les étudiants, toutes les étudiantes qui sont dans des situations précaires. Merci.
Vive le socialisme! Vive l'autogestion! Vive la sécu! Vive le socialisme! Vive l'autogestion! Vive la sécu! Vive le socialisme! Vive l'autogestion! Vive la sécu!
Encore maintenant et depuis des années, de nombreux logements étudiants du Crous sont insalubres et infestés par des cafards et des punaises de lit sans que rien ne soit fait. Les autres logements du Crous, qui sont en bon état, eux, sont deux à trois fois plus chers que les autres. Comment peut-on laisser des étudiants et des étudiantes en grande précarité financière vivre dans de telles conditions? Cette année, notre camarade a perdu sa bourse et son logement au Crous. Il se retrouvait donc sans aucune ressource financière. Il avait donc décidé de faire une demande exceptionnelle de bourse auprès du Crous qui lui avait été refusée. Le geste de notre camarade et ami témoigne de la grande précarité dans laquelle les étudiants et les étudiantes se trouvent. Aujourd'hui, plus concrètement, les logements Crous ne peuvent accueillir que 6% de la population totale étudiante. Et ces logements sont trop souvent insalubres. Selon le rapport de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, en 2019, 43% des étudiantes et des étudiants décident de renoncer à des soins médicaux. Et parmi elles et eux, 51% déclarent qu'elles n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir se soigner. Enfin, selon le rapport de 2018 de l'Observation de la vie étudiante, 8% des étudiantes et des étudiants ont pensé à se suicider dans l'année, contre seulement 3% de la population générale des 15-30 ans. Pour les revendications de notre camarade, pour que les revendications de notre camarade et amis soient écoutées, nous devons toutes et tous agir pour de meilleures conditions d'études et de vie. L'enseignement supérieur ne doit pas rester réservé à une classe élitiste et bourgeoise, mais bien à toutes et tous. Pour cela, nous exigeons donc plus d'aide envers les étudiants et les étudiantes issus de milieux populaires. Merci.
État coupable, Crous responsable. 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 État coupable.
Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. De cette société-là,
on n'en veut pas.
Les jeunes dans la galère,
les vieux dans la misère.
De cette société-là,
on n'en veut pas.
Les jeunes dans la galère.
Pour l'Union syndicale solidaire, ces dernières années, on a beaucoup parlé de violence. Celle dans la bouche de nos gouvernants concerne les manifestations, les vitrines cassées, les pavés lancés, et jamais les blessés ou tués d'en face, ni la violence sociale. La violence sociale, c'est celle qui frappe les plus précaires, celle qui concerne désormais des milliers, voire des millions de femmes et d'hommes. La violence sociale est le plus souvent invisible, niée par certains, passée sous silence, ou vue comme un fléau inéluctable qui touche ceux qui n'auraient pas fait assez d'efforts et qui n'auraient pas assez le mérite pour s'en sortir. Son geste ultime, notre camarade, son geste de détresse, a mis la lumière sur cette précarité qu'il subissait et celle de milliers d'étudiants et d'étudiantes. Il a aussi pointé les responsabilités parce que ce système capitaliste, ces politiques néolibérales qui assèchent les aides sociales, détruisent les services publics, la sécu et accentuent tous les jours les inégalités sociales, ces politiques-là sont menées par nos gouvernants depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes profondément tristes, nous sommes aussi en colère plus que jamais. La précarité tue, mais notre détermination à lutter contre ces politiques mortifères est décuplée par le message de notre camarade. Demain, nous serons en lutte et dans la rue, plus que jamais.
Camarade, on aimerait bien faire le slogan préféré de notre ami.
Où est-ce qu'on va?
Au combat.
Quel nom on a?
Le syndicat de lutte, de classe et autogestionnaire.
Où est-ce qu'on va?
Au combat.
Quel nom on a?
Le syndicat
de lutte,
de classe et autogestionnaire.
Où est-ce qu'on va?
Au combat.
Quel nom on a?
Le syndicat de lutte, de classe et autogestionnaire.
Au nom de la Fédération Force Ouvrière de l'Enseignement, il y a peu de temps, avec le suicide d'une directrice d'école, Christine Renon, à Paris, il y a eu 5000 manifestants enseignants, car elle a dénoncé dans sa lettre les conditions de travail abominables qui sont aujourd'hui imposées. Et nous avons aussi d'autres suicides d'enseignants qui posent les mêmes problèmes. À travers toute une série de réformes, de privatisation, de précarisation, la jeunesse, mais aussi toutes les couches de la population, sont acculées à des situations de désespoir. Le 5 décembre, il y a appel à la grève contre la réforme des retraites. Partout, tenons les assemblées générales pour décider, grève jusqu'au bout, pour faire reculer Macron.
Bloquez Macron ! Mettez-vous !
Moi, je voudrais rappeler, aujourd'hui, pour les réseaux sociaux, il y a un hashtag qui circule, la précarité tue. Si vous êtes dans une situation de précarité, témoignez que vous soyez étudiante et étudiant, que vous soyez travailleur ou travailleuse, que vous soyez au chômage, vraiment témoignez. Le hashtag la précarité tue a été top tendance ce week-end, vraiment témoignez et adressez-vous à vos syndicats.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi 18 novembre et vous venez d'écouter donc un reportage sur les événements de mardi dernier devant le Crous et probablement un peu après de Lyon. Et on enchaîne donc toujours sur le même sujet, mais ce coup-ci à l'échelle nationale, sur ce qui a pu se passer d'intéressant ces derniers jours nationalement dans les universités.
Alors, ce qu'on a pu voir, quand même, il y a eu donc que à peu près tous les médias en ont parlé, donc personne n'est passé à côté. Il y a eu des réactions au niveau national dans énormément de villes et de facs, notamment de France, à des manifestations qui ont pu avoir lieu donc un petit peu partout, notamment à l'appel de Solidaires là qui est autour du 12 novembre, où il y a des rassemblements se sont faits donc à Aix, à Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Besançon, enfin dans plein d'endroits. Et d'autres actions après en ont découlé un peu moins institutionnel, donc notamment en fait en réaction le soir même en fait des camarades toulousains ont attaqué le Crous en fait de Toulouse. Ça s'est mal fini aux dernières nouvelles, il y a eu des arrestations, mais c'est la première grande réaction de soutien en fait et de cris de désespoir par rapport à la situation. Ce qu'on a pu avoir dans aussi à Lille, l'ancien président François Hollande avait essayé de faire la promotion de son dernier ouvrage pour refonder la démocratie. Plusieurs centaines d'étudiants sont rentrés à l'intérieur de la conférence et en fait on fait en sorte d'arrêter l'hypocrisie de cet événement. Et on se sont débarrassés de ce très mauvais livre. À Cherbourg.
Tu l'as pas lu.
Oui, mais bon, enfin, j'ai lu les grandes lignes grâce au Monde et ça m'a suffi. Et en vrai, c'est un peu une catastrophe. oui, vas-y, offre-le-moi si tu veux. Non, c'est bientôt mon anniversaire. C'est bon. Voilà. À Cherbourg, les lycéens, en fait, se sont emparés des événements et ont fait un rassemblement en organisant une minute de silence. à Bordeaux aussi aujourd'hui, on avait donc le blocage de la fac qui avait été organisé et une AG qui a duré une bonne partie de l'après-midi. On a aussi en soutien en fait un certain nombre d'événements comme en lien à ce qui s'est passé à Lyon, entre le camarade évoqué tout à l'heure, et donc que ça soit à Rennes, à Toulouse aussi. Ou à Caen, en fait, où des cantines gratuites et des crous gratuits ont été organisées. À Toulouse, dans l'historique université du Mirail, en fait, une opération, pas mal d'événements ont été mis en place, une opération resto gratuit, différents rassemblements, des AG, des cantines, en fait, en soutien aussi à Solidaires étudiants on devrait recevoir aussi un soutien financier de la part de quelques autres villes. Et dans la toute dernière actualité, on a eu de cette nuit, en fait, le hall du Crous de Caen a été incendié avec un certain nombre de messages comme la précarité tue et des fossiles et des marteaux qui donc posent en fait un contexte sur qui revendique la latte.
Ok, et maintenant, après avoir parlé du mouvement étudiant, on va venir à l'anniversaire d'un des plus gros mouvements de ces dernières années, le mouvement des Gilets jaunes.
Voilà, donc ce fut un bien beau, joyeux anniversaire des Gilets jaunes, on peut le dire. 140 appels un peu partout en France, et selon Nombre Jaune, donc le décompte Gilets jaunes indépendants, 39 530 personnes précisément partout en France. Alors évidemment, c'est à la capitale qu'il y a eu le plus de monde, et c'est normal, c'est un classique. Évidemment, Macron, Castaner et leur préfet ont tout fait pour démontrer leur capacité à maintenir l'ordre. Gros travail de renseignement depuis plusieurs mois. Interdiction habituelle de manifester dans plusieurs départs de manifestations comme les Champs-Élysées à Paris ou la Presqu'île pour Lyon. La fermeture de nombreuses lignes et de stations de métro à Paris. Le contrôle des accès aux lieux de rassemblement autorisés. Et bien sûr, les nombreuses intimidations et interpellations préventives. À Paris, toute personne ayant un gilet jaune se faisant contrôler, se faisait confisquer son gilet jaune. Petite anecdote d'ailleurs, à Paris, un retraité gagnant, alors selon ses dires, 1200 euros de retraite par mois pour 45 années travaillées, s'est vu attribuer une amende de 135 euros pour avoir eu un gilet jaune dans son sac à dos. Eh oui, dangereux un gilet jaune, un retraité avec un gilet jaune dans son sac à dos, 135 euros, c'est mérité. Hein ? Bon, ce contexte répressif et cet anniversaire donc ont rapidement créé des tensions, voire des affrontements dans certaines villes comme Lyon, Toulouse, Nantes et surtout Paris. Bon, pour Lyon, le maintien de l'ordre a été plutôt efficace malgré les 1500 à 2000 personnes puisque les tensions sont comme d'habitude restreintes à la place Bellecour ou presque. La Presqu'île étant surprotégée, la première tentative d'aller vers l'A7 a reflué aussi sec en 2 secondes. Alors à Paris, la police a essayé de tenir le cortège Place d'Italie pendant plusieurs heures, un coup de gaz lacrymo, grenade de désencerclement et habituel acte de violence policière jusqu'à ce que le préfet interdise la manifestation. Et c'est là d'ailleurs que la manif a fini par partir. Merci le préfet. Donc McDonald's, banques et autres se sont fait joyeusement défoncer, direction Bastille. Je vous passe les détails de toute la manifestation, hein. Ça a eu lieu entre 11h30 et 20h, donc ça a duré longtemps. Il y a eu plusieurs cortèges, ce qui a permis de déstabiliser les flics. La mobilisation a plutôt été un succès à Paris, malgré la féroce répression. La dispersion dans tout Paris de plusieurs groupes de manifestations a complètement désorganisé la police. Quant à la répression, on peut dire que ce sont les voltigeurs, vous savez, ces flics à moto, là, qui ont été les plus vénères, mais pas uniquement. Alors, je vous en donne quelques exemples rapides. Hein. Un journaliste indépendant du Le Média pour vous a été gravement blessé au visage par un tir de Gli F4, les grenades de désencerclement, hein, qui lui a explosé juste devant le visage alors qu'il portait pourtant un masque assez costaud et qui a littéralement explosé le masque comme une partie de son visage. Sur plusieurs vidéos, une fois n'est pas coutume, on voit des flics rouer de coups des manifestants à terre. Ça, c'est que les vidéos qu'on voit. Évidemment, il y en a eu beaucoup d'autres. Sans défense, à Paris, hein, beaucoup. Il y en a eu aussi à Mondeville, dans le Calvados, une vidéo qui tourne sur Internet. Plusieurs tirs de LBD 40 en tir tendu au visage. Au moins 2 cas recensés à Paris, Place d'Italie, de manifestants qui ont été blessés à l'œil. Mais bon, tout ça, on en a que trop l'habitude et ça ne nous arrêtera pas, la répression, la preuve, puisque c'était un joli acte 53, un joli joyeux anniversaire. Vivement les prochaines manifs et surtout vivement la jonction du 5 décembre et la jonction Gilets jaunes.
Et maintenant, on va parler d'une autre mobilisation qui a eu lieu à Paris ce week-end. Donc, c'est celle des identitaires. Hein. Une semaine après la forte mobilisation lors de la controversée manifestation contre l'islamophobie, qui a quand même réuni près de 10 000 personnes, le groupuscule Génération Identitaire a voulu répliquer en organisant une manifestation contre l'islamisme ce dimanche. Que des musulmans aient osé battre le pavé parisien pour dénoncer le racisme incessant qu'ils subissent est
pour eux, un crachat au visage des victimes du terrorisme. Pour les identitaires, les musulmans entendent désormais constituer une force à même de peser sur la politique française. Par cette démonstration ponctuée de « Allahu Akbar », les musulmans passent du statut de minorité à celui de lobby dont les armes sont la démographie, le chantage victimaire et l'intimidation, clamait le communiqué appelant au rassemblement parisien. Une mobilisation ouvertement islamophobe en plein cœur de Paris, avec des slogans tels que « Pas d'islamistes dans nos quartiers, une seule solution, c'est la remigration ». Donc les fachos ont pu librement parader, alors que la veille, les manifs gilets jaunes étaient interdites et violemment réprimées à travers la France. Malgré le climat islamophobe qui touche le pays depuis plusieurs années et qui s'est intensifié ces derniers temps, la mobilisation a peiné à rassembler. On comptait environ 500 personnes dans le cortège. Et à Lyon, les fachos rassemblés d'abord à une trentaine devant les 24 colonnes se sont contentés d'ensuite juste aller tracter à Fourvière. Alors, un échec donc, cette mobilisation ? Bah oui, on peut se dire au premier abord. Mais en y réfléchissant bien, plusieurs choses inquiètent. Déjà, qu'ils aient pu manifester sans que les autorités s'y opposent et sans aucune réaction de quelque sorte de la part de personnalités politiques et publiques, c'est assez grave. Mais surtout, il faut éviter de lire la réussite et le succès de ces groupuscules fascistes à travers leur poids numérique et la taille de leur mobilisation. Le propre de Génération Identitaire, avant tout, de diffuser ses idées dans le débat public pour remporter l'hégémonie culturelle en termes gramsciens. Alors, parallèlement à cette stratégie les pousse à faire de l'entrisme dans le Rassemblement National et à y grimper les échelons. Donc une stratégie claire de prise de pouvoir via un parti à même de gagner les élections. Et pour finir, il faut surtout comprendre qu'en fait le fascisme ne se nourrit que très partiellement de la mobilisation de masse sur des thèmes réactionnaires et racistes en fait. Le fond de son fonctionnement, il repose avant tout sur l'apathie, l'indifférence, le cynisme et la démobilisation de la plupart de la population. En cela, ils sont profondément antidémocratiques et antipopulaires. Pour eux, en fait, généralement, pour les fascistes, la masse, c'est les stupides, c'est les moutons crétins qui suivent des gouvernements corrompus, etc. Ainsi, pour eux, tout ce qui compte, c'est le coup de force, la prise de pouvoir par un leader charismatique et providentiel à même de diriger les masses et de rétablir la pureté de la nation. Dans cette optique, donc, pas besoin de mobiliser massivement pour prendre le pouvoir. Et pour le coup, l'Amérique du Sud nous l'a montré à de nombreuses reprises, et ce qui se passe en Bolivie en ce moment nous le montre bien.
Et d'ailleurs, on enchaîne alors non pas avec la Bolivie, mais avec Athènes et Exarchia, le quartier d'Exarchia qui se fait bien défoncer par les flics.
Ouais, plutôt mauvaise nouvelle de ce côté-là, parce que malgré la résistance qui s'organise pourtant depuis des mois, les expulsions à Exarchia, quand même quartier anarchiste et autogéré d'Athènes, qui regroupe au total 49 squats, il vient de franchir un nouveau cap triste avec une violente offensive lancée la nuit dernière, le 17. Plusieurs passages à tabac, de garde à vue. Pour recontextualiser rapidement l'événement, on se souvient que l'expulsion du quartier autogéré avait débuté le 26 août dernier avec l'occupation militaire de toute la zone et le déploiement de moyens complètement disproportionnés devait permettre à l'État grec de reconquérir un espace qui lui échappait de fait et dont la reconquête s'affichait comme une priorité pour lui, voire une question d'honneur qui avait été clairement dictée par le nouveau Premier ministre Mitsotakis et son gouvernement de droite élu début juin. Bref, la première partie de l'offensive en août s'était concentrée dans la partie nord-ouest du quartier avec l'expulsion de 4 squats, à l'exception du squat Notara 26, symbole de la solidarité avec les exilés. Dans les jours qui ont suivi en août, les forces d'occupation, souvent alliées aux fascistes, ont multiplié les violences quotidiennes sur les migrants et les migrantes, les militants locaux, les solidaires. Tout ça a combiné avec des attaques super violentes contre le centre social autogéré Cavox, lieu le plus stratégique du quartier et symbolique, qui sert de base d'organisation surtout au groupe Rouviconas et aussi de dispensaire médical. La résistance pourtant dès août a été massive avec des attaques nocturnes quasiment tous les soirs contre les postes de surveillance mais aussi avec l'organisation de fêtes sur la place principale du quartier avec des grandes manifs de solidarité. Tout ça a provoqué finalement l'enlisement de l'opération d'évacuation pendant plus de 2 mois jusqu'à la deuxième phase d'expulsion qui a commencé le 16 octobre avec une nouvelle évacuation de 2 squats. La troisième phase d'expulsion donc a commencé début novembre dans un contexte particulièrement répressif, une nouvelle surveillance généralisée, des traques individualisées, des intimidations, mais aussi la multiplication de censures de toutes sortes et surtout de très nombreuses perquisitions. Tout ça À quoi s'ajoute le durcissement de la loi qui cherche à requalifier le groupe Rouvikonas, qui est quasiment un ennemi public numéro 1 là-bas, donc pour le requalifier par la loi de groupe terroriste, donc avec des peines complètement disproportionnées, et aussi une nouvelle création de brigades des voltigeurs. Bref, une situation répressive inouïe. D'ailleurs, sur son site, Yanis Yoluntas écrit « Une chape de plomb s'abat actuellement sur Athènes et tout le monde se retrouve menacé et traqué dans une véritable fête foraine pour policiers en manque de gauchos et d'anarchistes. Un feu d'artifice pour les valets du pouvoir et la grande roue pour le nouveau Premier ministre, piètre héritier de la dynastie politique Mitsotakis. » Bref, hier, les deux manifs qui étaient pourtant organisés en souvenir de l'insurrection de 1973 qui avait essayé de mettre fin à la junte des colonels, ces manifs elles ont été suivies d'un assaut de la part de plus de 5000 keufs, une véritable armada suréquipée qui rappelle les sombres moments de la dictature. Selon les médias, hier, Mitsotakis aurait enfin rétabli l'ordre et la démocratie. Le centre du quartier a effectivement été envahi, même si les deux principaux squats, Kavox et Notara 26, tiennent encore. En riposte, précisons-le, ce matin, le groupe Rouvikonas a attaqué deux firmes qui rachètent en ce moment la distribution du gaz et d'électricité dans un nouveau cadre, plan de privatisation et tout ça. Bref, on va suivre de près ce qui se passe dans les prochains jours et surtout force et courage et solidarité à Exarchia.
Et on parle d'une autre tentative d'étouffer une mobilisation et des gens qui dérangent à Hong Kong.
Alors Hong Kong, depuis le début de ce mouvement, on est sans cesse surpris par l'inventivité des manifestants hongkongais, alors que ce soit par la communication par post-it, les codes avec les mains pour organiser l'approvisionnement en matériel ou l'extinction des lacrymos avec des bouteilles d'eau ou des plots de signalisation. Maintenant, ils en sont utilisés des arcs et des flèches, et ils ont réussi à toucher un policier au mollet. Selon certains médias, les manifestants ne font qu'augmenter le niveau de violence alors que pourtant ils utilisent quand même des cocktails Molotov depuis des semaines, que le niveau de violence est à relativiser si on compare les flèches aux armes à feu qu'utilise la police, puisqu'elle a déjà utilisé plusieurs fois ces armes à feu donc avec des balles réelles. Trois personnes ont été blessées par balle et puis un a été tué, c'est plus français, le 9 novembre dernier. À part ça, où en est donc la mobilisation à Hong Kong ? Eh bien, depuis la dernière fois qu'on vous en a parlé, les actions sont devenues quasi quotidiennes et sont essentiellement des blocages, que ce soit de métro, rue ou magasin. On entend que la ville est paralysée, mais en fait, c'est pas vraiment une grève. Ce sont des blocages de routes, ce sont des blocages de magasins, mais les gens continuent à travailler. Par contre, depuis une dizaine de jours, les universités ont été occupées en permanence par des étudiants qui ont tenu des sièges face à la police. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une qui n'a pas été évacuée, c'est l'université de Polytechnique, où se sont retranchés des manifestants qui ne sont pas forcément des étudiants. La police a été maintenue à distance ces quelques jours, parfois grâce à des flèches enflammées, des herses en bambou, des catapultes, des lance-pierres géants installés sur les toits des bâtiments, des barricades enflammées à l'arrivée de la police, ou encore des briques disséminées sur les routes pour entraver la circulation. L'université occupée sert de base pour stocker le matériel, organiser des actions et semble aussi servir de camp d'entraînement, puisqu'on voit sur certaines vidéos des gens s'entraîner à acheter des cocktails Molotov dans la piscine de l'université. C'est un bon entraînement, oui oui. En face, la police hongkongaise, qui a été repoussée tout dernièrement là, grâce à un feu déclenché à l'une des entrées, a annoncé ce dimanche qu'elle allait désormais tirer à balles réelles. Elle l'a déjà fait, mais là, plusieurs images diffusées sur internet d'armes semi-automatiques entre les mains des flics hongkongais ont déclenché une vague de soutien d'une partie de la population qui se sont rapprochés des cordons policiers pour organiser des diversions. Parfois même à d'autres endroits de la ville, des barricades ou des tentatives d'émeutes ont été lancées pour faire diversion. Mais le noyau dur, retranché à l'intérieur de Polytechnique, arrive à court d'options, la police organisant un véritable siège et empêche tout ravitaillement. En gros, ce qui est en train de se passer au niveau de Polytechnique est méga chaud. L'attaque est imminente, l'attaque policière est imminente, et les personnes à l'intérieur commencent sérieusement à fatiguer. Et pour terminer, en face, les soldats chinois sont intervenus samedi sur le sol hongkongais. Or, selon la Basic Law, qui sert de constitution à Hong Kong, l'armée chinoise n'a pas le droit d'intervenir sans la demande du gouvernement hongkongais. Cette intervention aurait été faite uniquement pour nettoyer les rues bloquées. Mais il ne faut surtout pas douter que sous cette intervention en apparence, il s'agit en fait pour Pékin de faire un test, de jauger les réactions à Hong Kong et à l'international sur une présence militaire chinoise. Et comme cela semble s'être passé en toute impunité, eh bien cela n'augure rien de bon comme la possible et très probable attaque de Polytechnique.
Et on vous parlait déjà il y a quelques semaines des violentes manifestations touchant la Bolivie suite à la réaction du président Evo Morales. Eh bien, on va vous en reparler. Les résultats de l'élection avaient été entachés de forts soupçons de fraude, d'autant plus que Morales avait magouillé l'année précédente la Constitution pour briguer un quatrième mandat. Il avait de la sorte contourné le vote de la population qui s'était prononcé contre cette révision constitutionnelle lors d'un référendum. Alors que les manifestations étaient donc à ce moment-là en train de prendre de l'ampleur, on pouvait déjà faire un parallèle avec la suite d'événements qui ont amené Bolsonaro à prendre le pouvoir au Brésil. Et lors de notre précédent sujet justement sur la Bolivie, on avait dit que ce qui s'amorçait à ce moment-là, était probablement un des derniers actes de la mort progressive de la gauche radicale en Amérique latine. Eh bien, les récents développements nous ont donné raison. Abandonné, en fait, par les hauts responsables de la police et de l'armée, Evo Morales a été contraint de s'exiler au Mexique le lundi 11 novembre, donc la semaine dernière. On assiste, en fait, à une forme de coup d'État civique, puisqu'il n'y a pas eu d'intervention des militaires et des policiers pour faire chuter le régime, mais plutôt une forme d'inaction face à la mobilisation de l'opposition de droite, donc un refus de la police de défendre les leaders de l'État face à l'opposition, et ce sont même les derniers, en fait, l'armée et la police, à avoir demandé sa démission à Morales. Donc ils ont vraiment plutôt préféré regarder les choses se passer. Ainsi donc, comme au Brésil, où la droite dure et l'extrême droite avaient manœuvré pour éliminer Lula de la course au présidentiel, via notamment le rôle du juge Moro, du juge anticorruption Moro, et bien là, ce sont les mêmes forces politiques qui ont pris le pouvoir en Bolivie. La nouvelle présidente par intérim, Anes Chavez, est une figure de la droite dure et chrétienne. Après être entrée donc dans l'ancien palais présidentiel, Bible en main quand même, elle a déclaré « la Bible revient au palais », eh bien, cette chère Janine a nommé un gouvernement de droite dure composé essentiellement de personnalités venues des zones amazoniennes, blanches, avec seulement deux représentants autochtones, dont la ministre de la Culture et du Tourisme, donc au placard, quoi. Et si elle et ses partisans affirment n'être au pouvoir que pour organiser de nouvelles élections, en réalité, le temps de la revanche est venu pour la bourgeoisie blanche et chrétienne bolivienne après des années de présidence socialiste et indigène. L'objectif, donc, solder toutes les avancées sociales et surtout annihiler toute opposition de gauche. On a pu voir, du coup, les manifestations des partisans de Morales cette semaine, la semaine dernière, donc qui ont appelé à bloquer le pays pour protester, elles ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre. On compte déjà actuellement près de 23 morts. Et la répression, elle s'abat aussi fortement sur les indigènes, et en particulier les producteurs de coca, les cocales, donc. Et les intentions du nouveau gouvernement, elles sont encore plus claires, d'ailleurs, depuis que le ministre de l'Intérieur a annoncé la mise en place d'un organisme spécial sous l'égide du procureur général pour détenir des élus du mouvement vers le socialisme, le MAS, donc le parti de Morales, qui serait donc accusé d'actes de subversion ou de sédition. Alors, ce régime d'extrême droite autoritaire qui est en train de se mettre en place a clairement pour objectif d'imposer l'ordre néolibéral à un pays qui opposait une relative résistance depuis quelques années. Donc c'est en quelque sorte la stratégie du choc décrite par Naomi Klein à partir justement de l'exemple du coup d'État au Chili en 1973. Donc, c'est-à-dire utiliser des moments d'instabilité politique ou des coups de force et utiliser la terreur aussi pour imposer la dérégulation des marchés et l'ensemble des politiques néolibérales. Ce qui fait que maintenant le Chili est justement en pointe du néolibéralisme en Amérique latine. Et à ce propos, le rôle des USA, comme au Chili en 73, est plus que probable dans les événements qui ont cours en Bolivie. D'après certains médias d'Amérique latine, l'opposition aurait été largement financée depuis les États-Unis. Alors, au-delà donc, des manœuvres impérialistes américaines et puis de l'autoritarisme des bourgeoisies sud-américaines, comment aussi ne pas voir ici la débâcle de la gauche radicale, La chute de Morales n'est pas que le fait de la droite dure bolivienne, c'est aussi de son propre fait, puisqu'une large partie de la gauche a décidé de le lâcher suite à sa volonté à tout prix de conserver le pouvoir, coûte que coûte. Et on a pu voir notamment la principale centrale syndicale, la centrale ouvrière bolivienne, le lâcher et appeler à sa démission. Donc les pratiques de certains politiques de gauche auront vraiment coûté cher aux Sud-Américains ces dernières années, et au Brésil particulièrement, mais là, en Bolivie, ça risque d'être encore pire. Eh bien, espérons tout de même que l'élan populaire contre le néolibéralisme auquel on assiste en Équateur, en Chili, en Colombie, mais aussi un peu au Brésil, hein, saura aussi se développer en Bolivie.
On peut souligner aussi d'ailleurs que l'Union européenne soutient le coup d'État et le nouveau gouvernement. On finit donc cette émission presque pas en retard avec le traditionnel agenda.
Alors très rapidement, des dernières infos que j'ai eues, en fait, de la fac de Bron, les étudiants ont décidé d'eux-mêmes de lever l'occupation et de la reprendre demain matin. Et donc ils vous appellent.
À quelle heure?
Alors ils en savent rien encore, donc c'est entre 8h et 10h.
Ne rigole pas, pardon. C'est pas facile.
J'en doute pas. Donc oui, non, mais par contre, ils appellent quand même à revenir demain matin et puis à continuer en fait l'occupation, à faire vivre cette occupation pour continuer la lutte. Et donc voilà, donc vous pouvez y aller au moins à 10h, vous serez sûr qu'ils seront là. Et voilà.
Vas-y, t'as d'autres infos, vite, il y a Blasphème FM après qui arrive là, donc bon.
Alors, demain, à partir de demain, contre la violence d'État s'organiser, donc il y a quand même un certain nombre d'une réunion publique qui aura lieu à la Bourse du Travail à partir de 18h30, et qui est justement un travail sur la question des violences policières et comment on pourra résister. Si vous habitez près dans la région de Tarare, c'est le Café des Femmes de l'association Pluriel Reprend, donc voilà, vous pouvez y aller. Depuis un certain nombre d'années, elles animent des cafés entre femmes dans cette région. Mercredi, à partir de 18h, vous avez leur rassemblement.